Le monde de demain, janvier-février 2022. La dangereuse époque du temps des nations, écrit par M. Richard Ames et interprété par Jake Boyer. L'article commence. La Sainte Bible annonce l'avenir du monde. Les prophéties bibliques révèlent l'ordre des événements mondiaux qui aboutiront à la fin de cette ère de mauvaise gouvernance de l'humanité. Quels événements mondiaux devriez-vous surveiller ? La Bible révèle que, dans un avenir proche, une grande superpuissance mondiale s'élèvera au-dessus des États-Unis déclinant. S'agira-t-il de la Chine ? Nous avons vu récemment que la Chine s'affirme comme un dirigeant mondial. Ou bien la Russie, qui a pris la suite de la puissante Union soviétique, connaîtra-t-elle une résurgence au centre de la géopolitique mondiale ? La Bible révèle le rôle puissant que la Chine et la Russie joueront à la fin de notre époque, juste avant le retour de Jésus-Christ. Cependant, la Bible révèle aussi une vérité surprenante que beaucoup de gens ne reconnaissent pas encore. Une Europe résurgente deviendra la première puissance mondiale alors que l'histoire du monde culminera à Armageddon. Où se trouve le Moyen-Orient dans tout cela ? Armageddon vient de la translittération grecque Armegiddo qui désigne une région montagneuse dominant la plaine de Jisrael. Les armées du monde s'y rassembleront pour se préparer à la bataille prophétique de la fin des temps qui aura lieu au retour de Jésus-Christ. Cet Armageddon se situe à 90 km au nord de Jérusalem, la ville qui sera l'épicentre de ce conflit mondial. Nous lisons dans les Écritures qu'avant le retour du Christ, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 21, verset 24. Pour comprendre la prophétie biblique, nous devons savoir qui sont les nations et ce qu'est le mystérieux temps des nations. Une situation dangereuse au Moyen-Orient. Comment saurons-nous que nous approchons de la fin de l'ère actuelle ? La Bible révèle des événements prophétiques majeurs que nous devrions connaître. Jésus-Christ, notre Sauveur, fut également le plus grand prophète qui ait jamais vécu et il nous mit en garde à propos d'un signe spécifique. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Luc 21, verset 20. Bien entendu, au fil des siècles, de nombreuses guerres ont eu lieu dans et autour de Jérusalem. En 1967, la partie orientale de la ville passa sous le contrôle israélien et, pour la première fois depuis des millénaires, Jérusalem fut unifiée sous le contrôle d'un État juif. Mais même la guerre des six jours sera insignifiante en comparaison de ce qui arrivera. Cet assaut à venir contre Jérusalem se terminera beaucoup plus mal pour ses habitants juifs. Le Christ a prédit qu'ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 21, verset 24. Notez que cette prophétie concerne l'avenir. Ce n'est pas une description d'un événement passé. Lorsque les empires grecs et romains ont envahi Jérusalem dans le passé, ses habitants ne furent pas emmenés captifs parmi toutes les nations. Même lors de la conquête babylonienne de Juda en 586 avant Jésus-Christ, les Juifs furent principalement emmenés vers une nation et non dispersés en diverses régions, comme ce fut le cas pour le royaume septentrional d'Israël. À cette époque future, lorsque des armées venues du monde entier convergeront vers Jérusalem, le peuple de Dieu est incité à fuir à cause d'une grande détresse dans le pays. Luc 21, versets 21 à 23. Ceux qui n'échapperont pas seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et cette dévastation continuera tandis que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Verset 24. Pour comprendre les prophéties pour la fin des temps, il est essentiel de comprendre cet assaut contre Jérusalem et d'identifier le temps des nations qui suivra. Qu'est-ce que donc le temps des nations et qui sont ces nations ? Les gentils et les israélites. Dans ce passage, le mot « nation » peut aussi être traduit par « gentil », un mot désignant tous les peuples qui ne descendent pas du patriarche Jacob dont le nom fut changé en Israël. Genèse 32, verset 28. Dans ce contexte, le mot « gentil » signifie simplement « non israélite ». Il est facile de reconnaître que des nations comme la Chine et le Japon ne descendent pas d'Israël. La Russie et l'Allemagne sont deux autres grandes nations non israélites. Mais de nos jours, beaucoup ne reconnaissent pas les descendants actuels des anciennes tribus d'Israël. Jacob avait 12 fils, son fils Juda est l'ancêtre de la tribu de Juda, dont descend le peuple juif actuel. D'autres de ses fils sont les ancêtres d'un groupe de nations parfois qualifiées de 10 tribus perdues, qui constituaient le royaume situé juste au nord de Juda et qui fut emmené en captivité par l'Empire assyrien pendant environ 140 ans, avant que Juda ne tombe sous les envahisseurs babyloniens. Les lecteurs de longue date du monde de demain savent qu'en 721 avant Jésus-Christ, les habitants du royaume septentrional d'Israël furent emmenés en captivité en Assyrie. Ils furent ensuite dispersés lorsque l'empire assyrien fut renversé et beaucoup voyagèrent en direction du nord-ouest et s'installèrent dans les contrées lointaines de l'Europe. Au fil de leur histoire, en rencontrant des tribus non israélites, ils commencèrent à adopter de nombreuses coutumes non israélites. Ces peuples comprennent les descendants des peuples d'origine britannique, dont le Canada, mais aussi les États-Unis, la France, la Belgique, la Suisse ou les Pays-Bas. Pour en apprendre davantage à ce sujet, lisez en ligne sur mondedemain.org ou demandez un exemplaire gratuit de nos brochures « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie » et « Les pays de langue française selon la prophétie », adresse de nos bureaux régionaux en page 4. Babylone. L'ancienne nation de Babylone qui emmena la maison de Juda en captivité était une nation non israélite qui se développa jadis dans les plaines de Shinéar. Babylone était une nation riche, puissante et déterminée qui utilisait sa puissance pour défier, voire s'opposer au Dieu créateur. Les Écritures décrivent l'attitude orgueilleuse de Babylone lorsque ses habitants proclamèrent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Genèse 11, verset 4. Vous avez peut-être déjà vu des représentations artistiques de la tour de Babel. La plupart d'entre vous connaissent ce récit. Dieu confondit le langage des peuples dans cette région, afin qu'ils ne soient plus unifiés. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 11, versets 8 à 9. Un célèbre commentaire biblique note à propos de ces peuples que leur propre dispersion depuis Babel, verset 8, est rapportée comme un jugement spécial de leur incarnation flagrante de l'esprit impie qui caractérisa à nouveau la civilisation humaine après le déluge. Une fois de plus, la ville devint le centre culturel de la montée de l'arrogance humaine. Pouvons-nous voir que la montée de l'arrogance humaine de Babylone décrit également l'antagonisme envers Dieu qui est si populaire de nos jours? Dieu renversa cette attitude dans le passé. Cependant, nous lisons que celle-ci réapparaîtra à l'avenir. L'apôtre Jean a écrit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. » Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur, et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Apocalypse 18, versets 1 à 3. Comment devrions-nous réagir face à une telle impiété? Au verset suivant, Dieu nous avertit de ne pas participer au péché de la résurgence à venir de Babylone. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, versets 4 à 5. Chers lecteurs, chère lectrice, souhaitez-vous vraiment faire partie de la rébellion des gentils contre Dieu? Voudriez-vous subir les plaies qui ont frappé l'ancienne Babylone et qui s'abattront sur la Babylone à venir? Je ne le pense pas. Le système de la fin des temps appelé Babylone la Grande, voire Apocalypse 17 et 18, sera une alliance économique, militaire, politique et religieuse, mais faisant la promotion d'une fausse religion. Vous devez surveiller le temps des gentils, lorsque les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Apocalypse 11, verset 2. Le songe de Nebuchadnezzar. L'histoire des nations qui s'opposent à Dieu et à son peuple est vieille de plusieurs milliers d'années. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, fit un songe mystérieux représentant une grande statue à la tête d'or, seul le prophète Daniel fut capable d'en interpréter sa signification. Daniel dit au roi, « C'est toi qui es la tête d'or, » Daniel 2, verset 38. Sous la tête d'or, la statue avait une poitrine et des bras d'argent, un ventre et des cuisses d'airain, des jambes de fer, ainsi que des pieds de fer et d'argile mélangés. Daniel expliqua que l'empire de Nebuchadnezzar serait remplacé par un autre, représenté par la poitrine et les bras d'argent, que nous connaissons comme l'empire médo-perse. Il serait suivi par le ventre et les cuisses d'airain, connu comme l'empire gréco-macédonien, qui progressa fortement sous Alexandre le Grand. Les jambes de fer représentaient l'empire romain, qui s'étendit à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient de 27 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Et les pieds de fer et d'argile représentent une résurgence à venir de cet empire. Tout cela semble intéressant, mais comment pouvons-nous en être sûrs? La réponse est que la Bible s'interprète elle-même. Le livre de l'Apocalypse révèle l'histoire passée et future de l'empire romain. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Apocalypse 17, versets 9 à 11. Ici, les têtes représentent des montagnes qui sont un symbole biblique pour définir un gouvernement ou un royaume. Et ces sept têtes représentent sept rois successifs, chacun représentant une résurgence du royaume originel. La première tête de la bête écarlate, Apocalypse 17, verset 3, représente la première résurgence, la restauration de l'Empire en 554 après Jésus-Christ, sous l'empereur Justinien. La suivante fut dirigée par Charlemagne, couronné empereur à Rome en l'an 800. Les résurgences suivantes furent dirigées par Otto le Grand, Charles Quint et Napoléon Ier. La sixième résurgence prit fin en 1945 avec la chute de l'axe Rome-Berlin. Une dernière résurgence. De nos jours, beaucoup d'Européens espèrent encore que l'Union européenne deviendra une sorte de nouvel empire romain. Mais d'où tient-il cette idée? Des résurgences précédentes de l'Empire romain. Notez les parallèles entre les chapitres 2 et 7 du livre de Daniel dans l'Ancien Testament avec les chapitres 13 et 17 du livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. À partir de ces passages, nous pouvons commencer à comprendre la succession des royaumes prophétisés. L'histoire a prouvé l'exactitude des prophéties bibliques. Les empires sont apparus et se sont éteints comme la Bible l'avait prédit. Cependant, le tout dernier empire doit encore s'élever. À quoi ressemblera-t-il? Notez le commentaire suivant à propos d'Apocalypse 17, verset 11, en marge de la nouvelle édition catholique de la traduction de la Bible, traduite depuis la Vulgate en latin, et également connue sous le nom de version Douai-Reims. La bête mentionnée ici semble être l'Empire romain, comme au chapitre 13. Comme beaucoup d'érudits bibliques le reconnaissent, les bêtes dans Apocalypse 13 et 17 représentent l'Empire romain. La nouvelle édition catholique écrit encore au sujet d'Apocalypse 13, verset 1. L'image de la première bête est basée sur le septième chapitre de Daniel. Cette bête est la représentation des royaumes du monde, des royaumes fondés sur la passion et l'égoïsme qui, à toutes les époques, s'opposent au Christ et cherchent à opprimer les serviteurs de Dieu. La Rome impériale représente cette puissance. Oui, même les éditeurs de la traduction catholique romaine de la Bible reconnaissent l'identité de la bête. Les 42 mois de domination des nations. Le prophète Daniel révéla une époque de cataclysme mondial. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Daniel 12, verset 1. C'est la même époque que celle décrite dans Apocalypse 13, où l'influence maléfique et la puissance de la bête sont révélées. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Apocalypse 13, versets 6 à 8. La puissance de la bête exercera son influence sur le monde entier, mais Dieu la limitera à 42 mois seulement, soit 3 ans et demi. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Apocalypse 13, verset 5. Il s'agit de la même période de temps que nous avons vue précédemment dans Luc 21, lorsque Jésus décrivit une époque où les gentils, et non les juifs, domineront à nouveau brièvement sur Jérusalem. Bien qu'une grande partie des nations de l'Europe occidentale descendent des tribus de l'ancien Israël, souvenez-vous que l'Allemagne n'en fait pas partie, ni les peuples russes et chinois qui se trouvent au-delà de sa frontière orientale. Et c'est de là, parmi ces nations non israélites, que viendra une immense armée de 200 millions d'hommes qui traversa l'Euphrate pour arriver à Armageddon, puis à Jérusalem, afin de combattre contre le Christ à son retour. Apocalypse 9, versets 14 à 19. Jésus proclama que ce serait une époque unique dans l'histoire humaine, une époque si dangereuse que seul son retour empêchera l'humanité de s'autodétruire. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, verset 22. L'apôtre Jean a écrit « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Apocalypse 11, versets 1 à 3. Les 3 ans et demi de contrôle de Jérusalem par les nations des gentils comprennent les 2 années et demi de la grande tribulation. Matthieu 24, verset 21. Et l'année du jour du Seigneur, aussi appelée le grand jour de sa colère. Voir Apocalypse 6, versets 16 et 17. L'événement connu sous le terme de bataille d'Armageddon sera un point culminant lorsque les armées des nations se réuniront avant le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, verset 14. Pour en apprendre davantage sur ces événements spectaculaires, lisez notre brochure gratuite « Armageddon et au-delà ». En guerre contre le Christ. La dernière résurgence de l'Empire romain doit encore arriver. Ce sera une alliance de 10 rois ou 10 royaumes qui feront partie de la bête symbolique. Surveillez les développements en Europe à l'aune de l'ascension de cette superpuissance mondiale à venir. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Apocalypse 17, versets 12 et 13. Puis, notez au verset 14 à quelle époque cette dernière résurgence aura lieu. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Oui, cette machine militaire de la fin des temps échouera dans sa guerre contre le Christ. Elle cédera la place à un royaume qui durera éternellement, le royaume de Dieu, dirigé par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il remplacera un futur dirigeant religieux, séducteur, qui accomplira de grands prodiges. Ce dirigeant suscitera des passions religieuses à travers le monde. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Apocalypse 13, versets 11 à 13. La glorieuse victoire du Christ est la vôtre. Comment le temps des nations prendra-t-il fin? Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11, verset 15. Ce sera une époque formidable pour les chrétiens ressuscités, alors qu'ils recevront la vie éternelle et le grand privilège de régner sur la terre sous les ordres du Christ. Apocalypse 5, verset 10. C'est la récompense de Dieu pour ceux qui obéissent à son commandement de se repentir et d'être baptisés afin de recevoir le Saint-Esprit qui les aide à vaincre le péché ainsi qu'à développer le caractère saint et juste de Dieu dans leur propre vie. Au retour du Christ, ces fidèles chrétiens seront ressuscités en tant que prémices, les premiers êtres humains à entrer dans la famille de Dieu. Jacques 1, verset 18 et 1 Corinthiens 15, verset 52. Ce groupe comprendra des individus de toutes les nations, non seulement des Israélites, mais aussi des gentils qui auront fait partie de l'Israël spirituel en tant que chrétiens. Galates 6, verset 16. Ne laissez pas une fausse religion, ni un faux dirigeant religieux vous séduire et vous faire rater ce formidable avenir. Restez alerte et suivez les instructions de Jésus. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Luc 21, verset 36.